Vous écoutez IDFM, il est 10h. Bonjour et bienvenue dans l'émission Écolo d'IDFM Radio, Mission Verte, chaque jeudi de 10h à 10h30. Je suis Laurence, vous pouvez nous suivre sur 98.fm ou sur IDFM98.fr. Au programme de ce nouveau numéro, une invitée, Nathalie Gontard, chercheuse à l'INRAE et autrice de Plastique, le grand emballement. Puis dans une seconde partie d'émission, vous retrouverez les chroniques et rubriques habituelles. Merci encore pour votre fidélité aux ondes de la radio. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à Francky pour la technique. On se retrouve juste après ça, tout de suite. Bonjour Nathalie Gontard, merci d'avoir accepté mon invitation pour parler d'une de vos spécialités, le plastique. Alors faut-il le rappeler, vous êtes chercheuse à l'INRAE et vous êtes une des meilleures expertes en mondial du sujet. C'est pas moi qui le dis, c'est votre expertise hein, qui parle d'elle-même. En plus, on vous découvre dans des émissions. Vous avez consacré de nombreux ouvrages autour du plastique, dont Plastique, le grand emballement, que l'on peut retrouver notamment en version poche dans Mon Poche, monpoche.fr pour celles et ceux qui voudraient découvrir directement sur internet de quoi il retourne. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler le plastique, il n'est pas si vieux que ça. Malgré tout, il est arrivé très sournoisement, comme vous nous le rappelez, dans notre quotidien, on est presque devenu dépendant de cette matière que l'on trouve partout, même dans nos assiettes.
Tout à fait. Bonjour Laurence. Eh bien, oui, le plastique est un matériau que l'on utilise massivement depuis une cinquantaine d'années environ. Et c'est un matériau qui a envahi tous les replis de notre vie quotidienne, que ce soit... de nos emballages, notre alimentation, notre hygiène, nos vêtements, nos maisons qui sont actuellement isolées essentiellement avec des matériaux plastiques, nos transports, enfin bref, quel que soit l'endroit autour de nous vers lequel on se tourne, on va trouver un rôle très important des matériaux plastiques.
Alors, faut-il le rappeler, le plastique, excusez-moi, juste nous remettre dans le contexte, c'est une invention assez récente à l'image de notre humanité, le plastique, c'est à base de pétrole, je ne dis pas de bêtises, et donc à un coût très faible comparativement aux autres matières qui nous servaient d'isolant, de contenant, enfin de ce qui l'a remplacé au fur et à mesure des décennies.
C'est ça. Alors le plastique est un matériau qui est issu du pétrole, c'est-à-dire que on sépare les petits. En fait, le pétrole est une matière organique qui est dégradée, mais pas complètement, et on sépare ces petits morceaux de matière organique. Une part sert à être brûlée facilement pour produire de l'énergie. Et ensuite, une autre partie est utilisée, ces petits Legos de la matière sont réassemblés en utilisant les quatre mains de l'atome de carbone pour constituer des colliers de monomères que l'on appelle polymères plastiques. Et donc, ce sont des matériaux qui présentent la particularité de pouvoir être mis en forme très facilement, c'est-à-dire qu'il suffit de chauffer pour que la matière devienne malléable et qu'on puisse ensuite lui donner la forme que l'on veut, le refroidissement figeant le plastique dans la forme que vous lui avez donnée. Et ça, c'est très important parce que c'est un avantage que l'on ne retrouve dans aucune autre matière. Par exemple, le bois qu'il faut raboter, qu'il faut assembler, les tissus qu'il faut tisser, coudre, le verre qu'il faut fondre, mais à très très haute température, alors que là, on n'a pas besoin d'équipement particulier. Voilà. Et puis, en plus de ça, donc ça c'est vraiment la force principale du plastique, c'est sa facilité de mise en forme. Et d'ailleurs, le terme plastique veut dire cela, hein. Ça veut dire que c'est une matière qui se met facilement en forme. Et en plus de cette plasticité, on va retrouver tout un tas d'autres avantages qui sont la légèreté, la résistance à l'eau, et puis bien sûr, comme ce matériau a été produit en très très grande quantité, son faible coût. Mais au regard de tous ces avantages, il y a évidemment un coût très important à payer, et c'est un coût environnemental essentiellement.
Oui, parce que vous venez de le dire, parce que c'est pas cher, eh bien on a cette tendance à le jeter, à le remplacer, comme si de rien n'était, sauf que il y a vraiment votre ouvrage parle de recyclage et c'est vraiment un scandale d'État, j'ai envie de dire, un scandale mondial. Le plastique, c'est pas recyclable comme on le croit. On nous fait vraiment faire, on nous fait avaler des couleuvres et vous nous expliquez vraiment en détail comment et pourquoi. C'est pas aussi simple que ce sont des politiques, parce qu'évidemment il y a toujours la politique derrière. Hein, c'est pas que le bon vouloir des citoyens. Il y a beaucoup de politiques, ça coûte de l'argent. Et comme c'est pas cher, bah pourquoi s'en inquiéter ?
C'est ça, c'est exactement ça. C'est un matériau qui actuellement ne coûte pas cher, c'est-à-dire qu'on ne paye pas ce qu'on appelle les externalités, c'est-à-dire les impacts de ce matériau. Parce qu'il faut savoir que le plastique est un polluant éternel. Une fois qu'on l'a fabriqué, c'est un matériau qui va rester pendant des siècles, voire des millénaires, sur Terre, dans notre environnement. Sauf si on le détruit moléculairement, c'est-à-dire si on l'incinère, et là, pour le coup, il va contribuer au réchauffement climatique. Sinon, il va contribuer à la création d'un réservoir de micro et de nanoparticules plastiques qui est déjà énorme. Et ce sont des particules qui ont la particularité de pouvoir voyager partout, dans tous les compartiments de notre environnement, y compris dans l'air, via l'air. Et on retrouve ces particules absolument partout, dans les endroits les plus reculés de la Terre. Et ils peuvent voyager jusqu'à dans nos organes, c'est-à-dire lorsqu'ils atteignent l'échelle nanoscopique, ils sont capables de se couvrir d'une cape d'invisibilité pour tromper la vigilance des organes et donc pénétrer dans ces organes et s'y accumuler pour ensuite, vu qu'ils vont y rester très longtemps, parce que notre corps ne dispose pas des systèmes nécessaires pour les éliminer, donc ces particules s'accumulent et entraînent des phénomènes inflammatoires très importants.
Alors, est-ce que il y a, enfin, la solution la plus évidente, c'est d'arrêter d'en consommer. Y a-t-il d'autres solutions, peut-être plus pragmatiques?
Alors, je crois que vous l'avez bien dit, hein, il y a tout un tas de solutions. Celles que les gouvernements ont décidé de porter est le recyclage. Or, le recyclage du plastique se fait extrêmement mal. Je crois qu'il serait tout à fait honnête de dire qu'il ne se fait pas. Et qu'actuellement, ce que l'on appelle recyclage, c'est essentiellement du décyclage. C'est-à-dire qu'on va transformer le plastique dégradé en un autre objet. Et cet objet, ça va être par exemple une bouteille qui va être transformée en cintre ou en vêtements ou en briques pour la construction. Et c'est une façon en fait tout simplement de stocker un déchet plastique, c'est-à-dire que cette chaise, ce cintre vont continuer à se dégrader. Ça ne fait, même si ça a une certaine utilité, ça ne fait pas disparaître le déchet qui va continuer à produire des micro et des nanoparticules en vieillissant. Alors ça, c'est une chose. La deuxième chose aussi importante, c'est que pour décycler, il faut trouver de nouveaux débouchés pour le plastique. Hein. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace des filières locales traditionnelles qui ne posaient pas de gros problèmes environnementaux, comme les meubles en bois, les briques en terre cuite, les cintres en métal, etc., par de nouvelles filières industrielles qui utilisent du plastique recyclé. Donc ça veut dire que ces filières, une fois qu'on les a fait disparaître, ces filières de matériaux locaux et traditionnels, eh ben, il va être très difficile de revenir en arrière. Et ensuite, la troisième chose, c'est qu'une fois que ces nouvelles filières industrielles sont mises en place, eh bien, il faut les alimenter. Ce qui veut dire qu'il faut continuer à produire toujours plus du déchet plastique.
C'est là.
Donc actuellement, il n'y a pas cette stratégie du recyclage ne présente pas
solution
de réalité. Hein. C'est quelque chose qui c'est un petit peu comme une belle histoire. C'est un récit qui a été fait, mais qui ne trouve pas d'ancrage dans la réalité, puisque le plastique est très difficilement recyclable. Et actuellement, la meilleure solution, et elle est très très simple. Hein, il est un peu dommage qu'on se détourne de solutions très simples alors que en utilisant des solutions très compliquées, en mettant en avant des, ou en soutenant des solutions très compliquées comme le recyclage, alors qu'actuellement, les trois quarts des plastiques que l'on utilise, on les utilise parce qu'on nous les présente, parce qu'on n'a pas réfléchi, parce que ces plastiques ne coûtent rien, et pas forcément parce qu'on en a besoin. Ce qui veut dire que les trois quarts des plastiques que l'on utilise sont des plastiques qui ne sont pas forcément utiles et qui seraient facilement éliminables ou remplaçables, soit par une autre façon de faire, soit par un autre matériau. Et donc l'exemple le plus typique, ce sont les sacs de sortie de caisse dont on se passe actuellement, aujourd'hui, très bien.
Oui, en fait, il faudrait revenir, sans vouloir être réac, mais à la vie avant le plastique, dont on s'est passé pendant des millénaires et qui nous a bien dépanné et qui, malheureusement, on fait nos propres erreurs, l'humanité en a fait. Là, c'est l'occasion de se dire stop au plastique et revenons aux pratiques d'avant qui ont bien marché.
Alors moi, je le vois pas tout à fait comme ça. Moi, je le vois pas tout à fait comme ça parce que on a fait des pas en avant et je pense qu'il serait très difficile de revenir à l'ère avant le plastique. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais l'ère avant le plastique, c'est le début du siècle dernier. Ça serait un petit peu compliqué. Mais par contre, je crois qu'on peut avancer, c'est-à-dire trouver d'autres façons de faire sans plastique. Hein, et on pourra faire très bien sans plastique, parce qu'il y a beaucoup de plastiques qui ne servent pas, tout simplement. Donc je crois qu'il ne faut pas le voir comme une régression, mais plutôt comme une nouvelle forme du progrès, où lorsqu'on utilise un matériel synthétisé par l'homme, qui est capable de rester sur Terre des temps extrêmement longs, eh bien, on va se poser la question de savoir est-ce qu'on en a vraiment besoin. Les matériaux, les objets plastiques qui nous entourent, on en a des tas qui ne servent pas du tout notre bien-être. Donc, ça ne sera pas un recul. On ne va pas revenir à l'ère difficile du début du siècle dernier. On va tout simplement vivre, je pense, différemment. On va apprendre à vivre différemment et à mesurer la valeur des objets que l'on utilise.
Alors aussi avec
et pour moi c'est oui. c'est tout sauf un retour en arrière.
Oui, enfin, ce que je
c'est
dire,
au contraire une évolution.
Je voulais dire revenir en arrière, c'est-à-dire avec des objets du quotidien par exemple qui sont solides, résistants, qui tiennent dans la durée comme une bouteille en verre, une cruche en verre au lieu de bouteilles en plastique, des contenants en verre comme nos bocaux de conserve plutôt que du plastique. Enfin, je pensais plus à ces objets du quotidien qu'avant on utilisait avec des matériaux en verre ou en poterie, enfin tout sauf plastique, et qui ont eu des décennies, des siècles d'usage et qui était à la fois bon pour la santé parce qu'on n'a pas découvert dans le corps humain des problèmes d'infestation de ces micro plastiques dans le corps.
Ça, du papier ou
voilà.
Du bois. Et, ou...
Voilà, enfin des matières plus nobles si j'ose dire. Alors dans votre ouvrage dont on rappelle le titre Plastique le grand emballement, vous donnez des chiffres. Alors évidemment il faut vraiment réaliser un terrien contemporain utilise en moyenne l'équivalent de son propre poids par an de plastique chaque année, soit environ 68 kilos par an. Et encore, s'il est dans l'hémisphère nord, évidemment, ces chiffres s'envolent. On pense à la fashion, la fast fashion, c'est-à-dire tous ces vêtements faits de tout, de rien que l'on jette, les fameuses chaussures d'été, les tongs, les crocs, les machins qui finissent sur des plages parce qu'on les a perdus, on va pas s'embêter à aller chercher, ça a coûté 3 francs.
On pense aussi aux masques qui ont été présentés comme une version hygiénique de la protection vis-à-vis du virus, du Covid, alors que ce n'était pas le cas. Un masque en coton est tout aussi efficace qu'un masque en polypropylène.
D'ailleurs, les premiers masques que l'on faisait chez soi avec sa machine à coudre, c'était avec du tissu. Enfin, là encore, on voit combien on cherche la facilité, la rapidité, et on ne voit jamais plus loin que le court terme, moyen terme. Et on découvre justement dans votre ouvrage combien les lobbies du plastique, les politiques engendrées, nous mettent un beau ruban autour du papier cadeau en plastique, alors que la situation est quand même assez grave. Est-ce que cette période post-Covid, malgré les masques, les gens prennent un peu plus conscience? Là, on voit que dans les fast-food, le plastique jetable a été retiré pour celles et ceux qui mangent sur place, mais bon, si vous en portez ou si vous faites livrer, il est toujours là. Est-ce que les
sacs... Attention, hein, dans les fast-food, on a supprimé le plastique soi-disant jetable. En fait, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé.
C'est-à-dire
qu'au départ, dans les fast-food, on utilisait du plastique jetable, c'est vrai. Et puis, depuis quelques années, beaucoup de fast-food avaient fait l'effort de remplacer ce plastique jetable par des matériaux de type papier-carton, donc qui sont censés être biodégradables, même si des fois, il y a une fine couche, mais bon, grosso modo, ils étaient biodégradables.
Des efforts.
Et là, avec cette politique, encore une fois, un petit peu aveugle de l'usage unique, on vient de remplacer ces cornets, ces boîtes de hamburgers en papier-carton par des matériaux très épais qui sont dits réutilisables et qui sont en plastique.
Oui, c'est vrai.
C'est-à-dire qu'actuellement, on va utiliser encore plus de plastique. Et c'est ce qui s'est passé aussi pour toute la vaisselle dans les supermarchés. La vaisselle jetable...
En carton, souvent.
Maintenant, il s'agit d'une vaisselle réutilisable. C'est du plastique épais, qui est tout simplement plus épais. Lorsque vous allez dans les pharmacies, dans les magasins, etc., maintenant, on vous donne aussi des sacs qui ne sont plus jetables, mais qui sont toujours en plastique, qui sont réutilisables, mais ce sont tout simplement des sacs plus épais. Donc le résultat, c'est qu'on s'est débrouillé avec toutes les stratégies, que ce soit pour le recyclage ou pour le jetable, à utiliser toujours plus de plastique. Et ça, c'est impressionnant, parce qu'actuellement, il n'y a aucun pays au niveau de l'Europe qui a diminué sa consommation de plastique vierge.
Est-ce qu'on peut quand même être un petit peu optimiste pour les futures générations, leur rappeler qu'on peut avoir d'autres contenants, d'autres outils, d'autres choses non pas faites en plastique, mais en base de bois, en matière végétale, en matière carton, enfin, etc., en papier,
mais
tout sauf plastique.
Mais évidemment,
oui.
Il y a toute une gamme de matériaux fantastiques qui peuvent prendre la place du plastique. Il y a aussi toute une autre... Il ne faut pas forcément penser remplacement du plastique. C'est-à-dire qu'on peut avoir aussi une autre façon de faire, tout simplement. Hein. Au lieu d'emballer les aliments, on peut très bien avoir des circuits beaucoup plus courts où on va les distribuer de façon plus proche. Au lieu d'offrir un cadeau en plastique à son neveu, eh bien, on peut passer un moment avec lui et ainsi de suite. Et je crois qu'il y a des tas d'autres façons de faire sans plastique. Et là, je crois qu'on a énormément de marge pour pouvoir réduire considérablement et efficacement notre consommation de plastique tout en vivant mieux. Actuellement, par exemple, lorsqu'on regarde les magasins outdoor, donc les magasins de plein air, si on enlève les plastiques, il ne reste plus rien. Or, on n'a pas forcément besoin de se couvrir de plastique pour aller se balader dans la nature, quoi. Ça, c'est clair. On peut très bien opter pour d'abord moins d'objets et ensuite des objets qui sont constitués de matières naturelles qui réintègrent tous ces cycles biogéochimiques, que ce soit du coton, que ce soit du métal, que l'on reparte sur des matériaux nobles, entre guillemets.
Eh bien, c'est sur ces mots optimistes hein, qu'on va se quitter, Nathalie Gontard. On rappelle le titre de votre ouvrage « Plastique, le grand emballement » que l'on peut retrouver aux éditions Mon Poche. Précédemment, vous aviez sorti « Vivre sans plastique, des outils écologiques à notre portée ». Ce sont deux titres formidables où l'on a des pistes pour se sevrer, car vous nous le rappelez hein, dans la couverture de l'ouvrage, c'est une vraie addiction que le plastique. Alors on va essayer de se sevrer. En plus, avec notre époque, on a envie de se délester hein, de trop d'objets, de ce consumériste à outrance. Et c'est l'occasion de revenir à des choses plus simples, peut-être plus nobles, qui ont une durabilité dans le temps. Plus écologique, enfin, en tous les cas, vous nous donnez de nombreuses pistes dans vos deux titres. Merci encore à vous et puis merci encore pour votre travail, car on rappelle, vous êtes chercheuse à l'INRAE, cet institut national qui travaille sur ces questions depuis des décennies et auquel on compte un peu beaucoup sur vous pour trouver des pistes et des solutions pour le grand public, parce que finalement, nous sommes aussi acteurs, mais bon. Des fois, les lobbies sont tellement forts qu'ils nous conduisent sur des routes un peu dangereuses, alors que grâce à vous, grâce aux experts qui se trouvent et à vos recherches, eh bien, des solutions, des perspectives en tous les cas arrivent un peu tous les jours, j'espère. D'ailleurs, si celles et ceux sont curieux, on peut aller hein, sur le site de l'INRAE, inrae.fr, pour tout savoir sur vos travaux, puis pour les jeunes qui seraient intéressés. Et peut-être ça va ouvrir des vocations à celles et ceux qui ont cette portée écologique, parce que les jeunes, c'est vraiment quelque chose qui les porte. C'est comme ça. La Covid a fait son effet, et grâce à vos travaux, Nathalie Gontard, j'espère que beaucoup auront envie de découvrir ce que vous proposez autour de la sortie du plastique. Merci encore à vous. À bientôt. Au revoir.
Merci à vous, Laurent.
Je suis bancale, je suis bancale, je suis bancale. J'ai penché pour cette fille et sa douceur vanille. Je suis bancale, je suis bancale, je suis bancale. Moi qui dis jamais non dans le lit des garçons. Est-ce que ça va dans ma tête? J'ai le cœur au bord des yeux.
À l'écoute d'IDFM Radio Mission Verte et du point de vue local et départemental, un coup de projecteur sur la ville de Vauréal dans le nord du département, car 6 projets déposés par la commune dans le cadre de la 4e édition du budget participatif écologique et solidaire, et bien ces 6 projets ont tous été retenus et seront ainsi financés à hauteur de 37 000 euros par la région Île-de-France. Alors ça a été lancé en 2020. Le budget participatif écologique et solidaire de la région est donc une démarche citoyenne qui offre la possibilité à tous les franciliens de devenir acteurs de l'environnement dans la région. 656 projets ont été proposés pour cette 4e édition et soumis au vote des franciliens. En septembre dernier, au total, 588 nouveaux projets ont été plébiscités. Grâce à ce budget participatif 2022, la commune de l'Aglo de Vauréal va bénéficier d'une subvention de 10 000 euros pour créer de nouveaux jardins familiaux. Situés à proximité des jardins familiaux existants, une nouvelle parcelle d'une surface d'environ 2460 mètres carrés qui devrait permettre d'accueillir environ 20 nouveaux cultivateurs. 7 000 euros seront par ailleurs investis dans le remplacement des éclairages halogènes par des sources à l'aide au centre technique municipal. Une opération identique va même être menée au gymnase des Toupets pour un montant de 10 000 euros et sur le terrain de pétanque pour une somme de 3 000 euros. L'aide de la région va autoriser également la ville de Vauréal à aménager un labyrinthe fleuri, véritable refuge pour la faune et la flore. 1 000 euros seront consacrés à ce projet et puis 6 000 euros seront dépensés dans l'achat d'un broyeur de branches dans une démarche globale d'amélioration des méthodes de gestion écologique et alternative des espaces verts sur la commune. Alors bravo Vauréal, et pour ça c'est ceux qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur le site de la région Île-de-France.
Qui n'en finissent pas, quand tu faisais ton cinéma, les blagues qui sont qu'à nous deux, enfin tu connais l'histoire. Je nous revois dans notre bulle, on se déteste ou on s'adule, on fait semblant d'être adulte, on se voit déjà sur la lune. Mais le temps nous ramène sur terre, c'est vrai qu'il passe. Dans le bain de la vie, c'est comme une vague qui nous dépasse. Si on ose bien, on met sur pause et on efface. Moi la question que je te pose, est-ce que ça vaut la peine de grandir? Le cœur vers le passé, les yeux vers l'avenir, est-ce que ça vaut la peine de grandir? Je me demande, est-ce que ça vaut la peine? Viens, on s'arrête avant de grandir. Des questions sans réponse, des choses que je ne vois pas venir. Viens, on s'arrête avant de grandir. Je veux comprendre, est-ce que ça vaut la peine? Et sans souci, ce que la vie a fait de nous, c'est ce qu'on a fait de nos vies. Qui nous l'aurait prédit, ce qu'on est devenu aujourd'hui? Je veux te faire une confidence, je repense à ce temps béni où on avait des choses à rêver. On avait tant de choses à se prouver. On a laissé l'enfance s'éloigner, mais qui sait pour mieux la retrouver? Il y a eu le charme des premières fois, la première fille, le cœur qui bat, les premières larmes et l'impression que de tout ça on guérira jamais. Il y a eu, on n'avait pas peur de tout dire. Est-ce que ça vaut la peine de grandir?
Est-ce que ça vaut la peine de grandir? Le cœur vers le passé, les yeux vers l'avenir. Est-ce que ça vaut la peine de grandir? Je me demande, est-ce que ça vaut la peine?
Et on s'arrête avant de grandir. Des questions sans réponse, des choses que je ne vois pas venir. Viens, on s'arrête avant de grandir. Je veux comprendre, est-ce que ça vaut la peine? Moi je dis que vers l'enfance on s'élève. Qu'est-ce que c'est bon de pouvoir goûter à ses rêves. On avait rien, on était bien. On avait envie d'aller loin. Je ferme les yeux, je vois le passé d'où l'on vient. On dit qu'on retombe en enfance. Moi je dis que vers l'enfance on s'élève. Qu'est-ce que c'est bon de pouvoir goûter à ses rêves. On avait rien, on était bien. On avait envie d'aller loin. Je ferme les yeux, je vois le passé d'où l'on vient.
Avant de se quitter, je vous rappelle la citation qui conclut chaque semaine l'émission, celle de Charles Darwin. Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site idfm98.fr et notamment écouter ou réécouter Nathalie Gontard, notre invitée d'aujourd'hui et qui est chercheuse à l'INRAE et autrice de Plastique, le grand emballement. Merci encore à vous pour votre fidélité. Merci à Francky pour la technique. À suivre, retrouvez Sabrina et son émission Au cœur de l'assaut. À la semaine prochaine et bonne journée sur les ondes d'IDFM Radio. Au revoir.